Notre adoration, notre célébration, comme ça a été déjà le cas aujourd'hui, de la victoire de Jésus-Christ, en considérant ensemble Matthieu chapitre 4, dans l'évangile de Matthieu, et les 11 premiers versets qui parlent de cette rencontre entre Jésus et notre ennemi, son ennemi, le diable, le tentateur. Le titre, c'est « Le roi face à l'adversaire » ou « Le roi face au tentateur ». Il faut savoir que Jésus avait probablement ce jour même, peut-être le jour avant, il avait quitté sa ville de Nazareth pour commencer son ministère public. C'est un tournant dans la vie de Jésus. Et il avait voyagé au Jourdain où il a été baptisé par Jean. Et puis dans l'histoire que l'Évangile nous donne, sans aucune interruption, pendant probablement que Jean-Baptiste et ceux qui se tenaient près de là regardaient, eh bien Jésus quitte le Jourdain et il s'en va tout seul dans le désert. Aussitôt qu'il arrive, aussitôt qu'il est parti. Et donc, nous avons ce grand contraste parce que son baptême était une identification très publique devant la foule, mais la tentation doit être une tribulation privée. C'est pour cela qu'en nous arrivant à ce texte, nous sentons une intimité dans la vie de Jésus. Nous regardons quelque chose qui s'est passé en privé. Personne n'a vu. Et c'est comme si on est un peu dans un lieu très saint et on entre dans l'intimité de la personne de Jésus et il s'ouvre à nous pour que nous puissions mieux le connaître. Et pour comprendre l'importance de la tentation du Messie, nous devons nous rappeler, comme je l'ai dit déjà, que Jésus agit maintenant plus qu'un simple individu. Il agit maintenant dans son rôle de Messie, du Messie qui sauvera son peuple de ses péchés. Dans le baptême, il avait volontairement endossé ce rôle de sacrificateur et de sacrifice, du péché porteur, de celui qui allait porter le péché. C'est là la signification, l'importance de son baptême. Et donc, dans un sens, Jésus vient d'entrer en fonction. C'est comme quelqu'un qui est un individu quelconque et puis un jour, on le nomme ministre. Et après ce temps, il doit agir en tant que ministre de l'État. Et Jésus, maintenant, est entré en fonction et il doit agir en tant que ministre, en tant que Messie. Et donc, il n'est pas testé ici, éprouvé, simplement en tant qu'individu, mais en tant que représentant des personnes qu'il est venu sauver. Et donc, nous devons le considérer en lui donnant un des titres que la Bible lui donne, celui du dernier Adam. Vous connaissez ce titre qui lui est donné en 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. Il est appelé le dernier Adam. Et cela nous rapporte bien sûr au premier Adam, au tout début de la création. Tout était glorieux, tout était beau, c'était le jardin d'Éden. Et Dieu a mis, vous rappelez, Adam face à un test, face à une épreuve. Mais Adam n'était pas devant cette épreuve simplement en tant qu'individu, comme vous et moi. Il était en fait le représentant de nous tous. Adam a eu la possibilité de prendre lui-même et toute sa postérité au ciel. Et pourtant, quand le test est venu, ça ne s'est pas bien passé, n'est-ce pas? Il a échoué. Et quand il a péché, la Bible dit, en lui, nous avons tous péché. Et ainsi, la Bible dit que tous meurent en Adam. Donc notre premier représentant, le premier Adam, nous a laissé comme héritage la mort. La mort qui s'est étendue après sur tous les hommes parce que tous ont péché en Adam. Ça, c'est une tragédie terrible. Et donc, quand on arrive à Matthieu chapitre 4, maintenant, celui qui a endossé le rôle du dernier Adam, un nouveau Adam qui va se présenter, il doit aussi être tenté. Et s'il échoue en tant que représentant, eh bien, tous ceux qui sont en lui échouent et chutent aussi. Donc, le fait d'être en Christ, s'il ne réussit pas à ses tests, le fait d'être en Christ ne serait qu'une condamnation. On est condamné la première fois en Adam, et puis on est condamné une deuxième fois en Christ. Mais s'il résiste, tous ceux qui sont en lui par la foi résistent avec lui. Vous voyez l'importance maintenant de ce qui arrive, parce que Christ a dû non seulement mourir pour nous, il a dû premièrement vivre pour nous. Il a dû non seulement payer la pénalité que de la loi à laquelle le premier Adam a désobéi. Ça, il le fera après, mais même avant de pouvoir le faire, il doit garder la loi que le premier Adam a transgressée. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il l'a gardée, nous l'avons chantée, nous l'avons priée, nous l'avons lue déjà. De sorte que l'Écriture nous dit, 1 Corinthiens 15, 22, « Et comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ. » Dans son baptême, donc, il a volontairement accepté le rôle du péché porteur et maintenant il doit être tenté, il doit être démontré comme un sauveur digne, un sauveur capable. Parce que comment peut-on croire que quelqu'un peut sauver un autre de ses péchés s'il ne peut pas lui-même résister au péché? Alors, avouons-le d'emblée que c'est un peu un faux suspense ici. Parce que même en lisant Matthieu, sachant déjà ce que nous avons appris de ce roi, ses origines, sa naissance d'une vierge, son identité en tant que le roi, le Fils de Dieu, son caractère, on arrive au chapitre 4 et nous ne doutons pas, nous n'avons pas en tout cas raison de douter ce que sera la fin de cette rencontre. Et le Nouveau Testament évoque à maintes reprises l'infaillibilité de Christ. Paul déclare, je cite, qu'il n'a point connu le péché, de Corinthiens 5, 21. Pierre dit, il n'a point commis de péché, 1 Pierre 2, 22. Et Jean ajoute, il n'y a point en lui de péché, 1 Jean 3, 5. Donc, comme nous, Jésus a pu être tenté de l'extérieur. Satan vient à Jésus avec ses suggestions contraires à la volonté de Dieu. Mais contrairement à nous, c'est un contraste avec nous, Jésus ne pouvait pas être tenté de l'intérieur, c'est-à-dire il n'y avait aucune convoitise ou passion qui était coupable en lui, qui était attirée par ce que Satan faisait envers lui, vers la tentation. Il n'y avait rien en lui qui était susceptible de répondre aux sollicitations diaboliques. Satan n'a rien en moi, Jésus a dit en Jean 14, 30. Et un commentateur dit ceci, « Malgré l'impossibilité pour Jésus de pécher, la tentation fut très réelle. Il lui était possible d'être confronté à l'attrait du péché, mais il lui était moralement impossible de céder. Il ne pouvait agir que comme il avait vu agir son père, dit Jean 5, 19. Et il est inconcevable qu'il ait vu le père pécher. » Il ne pouvait rien faire de lui-même, il dit en Jean 5, 30, et jamais le Père ne lui aurait donné l'autorité de céder à la tentation. Le but de la tentation était non de voir si le Messie pécherait, mais de prouver que même dans les pires de conditions de harcèlement, il ne pouvait qu'obéir à la parole de Dieu. Fin de citation. Alors rappelons-nous qu'ici, dans la vie de Jésus, il n'a pas encore prêché un seul message. Il n'a pas encore fait un seul miracle. Il n'a pas encore appelé de disciples. Avant que tout cela débute, il est testé au plus haut degré possible et démontré fiable et vainqueur contre le pire que l'ennemi puisse faire. Et donc c'est un passage merveilleux parce que le lecteur de cet évangile ou la lectrice de ce livre est rassuré depuis presque le début de cet évangile que Jésus va réussir à toute épreuve. S'il réussit ici, c'est qu'il va réussir jusqu'à la fin. Et c'est Dieu le Père qui le dit. Hein. Regardez la dernière phrase du chapitre précédent, la dernière phrase de Matthieu chapitre 3. Dieu le Père, il dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Dieu l'a dit, et maintenant Satan va le prouver. C'est Satan qui, par ses tentations, va prouver ce que le Père vient de dire. Vous voyez, Satan, il sert à quelque chose. Il sert à quelque chose. Il va servir contre son gré, bien sûr, à prouver l'impeccabilité de notre Sauveur. Et cela me fait penser à l'hymne de la Réforme qu'a écrit Luther, qu'on a chanté tout à l'heure, mais je vous relis ces paroles. « Notre ennemi, mortel, rusé, fort et cruel, rugit, menace, redouble d'audace, il n'a point d'égal sous le ciel. Seuls, nous serions bientôt perdus dans ce péril extrême. Mais un héros nous a secourus, choisi par Dieu lui-même. Il est notre Sauveur, le grand Dieu, le Seigneur. C'est Dieu fait homme. Jésus-Christ, il se nomme. La victoire lui restera. » Et il y a dans ce texte trois acteurs principaux ou groupes d'acteurs, sans compter Jésus lui-même. Il y a l'Esprit, il y a Satan, il y a les anges. Nous voyons l'Esprit de Dieu qui le pousse dans le désert et Satan qui le tente dans le désert. Et puis à la fin, nous voyons les anges qui le servent. Et donc nous allons prendre ces trois groupes de personnes, un peu comme pater pour accrocher nos pensées ce matin. Donc tout d'abord, considérons l'Esprit qui pousse Jésus-Christ dans le désert. Regardez le verset 1, Matthieu 4, verset 1. « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. » Je devrais dire « emmené par l'Esprit dans le désert » pour être tenté par le diable. Écoutez Luc, chapitre 4, verset 1. « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. » Et écoutez Marc, chapitre 1, verset 12. « Aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert. » Le rôle central du Saint-Esprit est souligné par les trois évangélistes qui racontent cette histoire. Et le mot utilisé par Marc, il a poussé Jésus et le même employé quand Jésus chasse des démons ou quand Jésus chasse les vendeurs dans le temple. C'est presque un mot brutal et brusque et fort. Le mot utilisé par Matthieu, emmener Jésus dans le désert, et celui utilisé quand Marie et Joseph emmènent Jésus à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Il est amené par ses parents au temple et là il est amené par l'Esprit dans le désert. Et puis le mot utilisé par Luc, et le même mot qu'il utilise 8 versets plus tard pour parler de quand Satan amène Jésus sur le haut du temple. Jésus, dans un sens, n'y était pour rien. Satan lui amène là, sur le haut du temple. Et de cette même façon, c'est l'Esprit qui amène Jésus dans le désert. Alors, ce n'est pas utilisé pour suggérer que Jésus n'était pas disposé à y aller, qu'il résistait, le Saint-Esprit poussait, il résiste et le Saint-Esprit le pousse. Pas du tout. Mais pour souligner le fait qu'il est allé avec une persuasion très forte et sensible que cela venait de l'Esprit de Dieu. Écoutez encore Luc 4, verset 1. « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. » Deux fois, il nous dit que l'action du Saint-Esprit était à l'origine. Et je crois que c'est l'enseignement ici, que la tentation était divinement instigée. Si l'Esprit n'avait pas poussé Jésus dans le désert, Satan n'aurait pas eu ses occasions. C'est une affaire de l'Esprit, c'était l'affaire de Dieu. Et donc le même Dieu, ceci nous dit que le même Dieu qui ne nous permet pas d'être tenté au-delà de ce qu'on peut supporter, mais qui avec chaque tentation fournit une manière de nous échapper, chaque tentation est contrôlée, limitée par Dieu dans nos vies, ce même Dieu pousse son propre Fils, l'Esprit pousse le Fils bien-aimé pour être tenté à notre place. Le premier Adam est tombé avec des conséquences terribles et vastes. Et maintenant Dieu veut démontrer à tous que le dernier Adam peut résister avec des conséquences merveilleuses et également de grande envergure. Alors c'est l'Esprit qui le pousse. Et puis notez deuxièmement que c'est Satan qui l'a tenté. Regardez le verset 2 de Matthieu 4. « Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché de lui, dit, etc. » Marc 1, 13 dit « Il passa 40 jours tenté par Satan. » Alors, deux choses ici. D'abord, le tentateur et puis un regard sur les tentations. Mais en considérant le tentateur, notez simplement ce mot distinctif pour Satan. On l'a déjà souligné ce matin. Verset 3, « Le tentateur ». Ça, c'est son nom, c'est son rôle. C'est le grand rôle de Satan depuis sa première rencontre avec l'humanité dans le jardin d'Éden. 1 Thessaloniciens 3, 5, Paul écrit « Dans mon impatience, j'envoyais quelqu'un pour m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous n'ayons travaillé en vain. » Il agit comme tentateur. C'est pour ça qu'il est toujours menteur, parce que derrière la tentation, il y a toujours le mensonge. C'est toujours un piège qu'il tend à l'autre. Mais 1 Corinthiens 10, 13 nous assure que les tentations qui nous ont assaillis jusqu'ici sont communes à tous les hommes. Donc on peut aussi dire ça de nos vies. Nos tentations sont communes à tous les hommes, mais les tentations que Jésus a connues dans le désert n'avaient rien de commun. Ça c'est, si vous voulez, la grande bataille. Ça c'est le grand adversaire qui montre sa plus grande force à l'heure de la plus grande faiblesse de Jésus. Si jamais il peut gagner, c'est maintenant. C'est le roi des rois et son adversaire. Alors ça, c'est le tentateur, considérant donc les trois tentations. Il y a plusieurs façons de les regarder. On dit parfois que la première tentation concerne la provision de Dieu, question de pain. La deuxième concerne la protection de Dieu, c'est question de sauter, ce qui va arriver s'il saute du haut du temple. Et la troisième concerne la promesse de Dieu, parce que Dieu lui avait promis les nations comme héritage, et Satan essaye de troquer et de vendre cela à Jésus. Donc c'est la provision, la protection, la promesse de Dieu. Mais je veux vous lire deux versets en hébreu. D'abord, Hébreux 2, 18, qui souligne le lien entre les tentations de Jésus et sa souffrance. Écoutez la parole de Dieu, Hébreux 2, 18, « Car en ce qu'il, et ça parle de Jésus, a souffert lui-même étant tenté, il est à même de secourir ceux qui sont tentés. » C'est la traduction d'Arby. Vous avez entendu ce lien entre la tentation et la souffrance. Il a souffert étant tenté. Ça veut dire que les tentations de Jésus étaient une vraie souffrance pour lui. Ce n'est pas quelque chose de facile. Il a vraiment souffert. Et puis je vous lis Hébreux 4, 15 qui souligne le lien entre les tentations de Jésus et sa faiblesse. Hébreux 4, 15 nous dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. » Pourquoi pas? Eh bien, au contraire, il a été tenté, comme nous, en toute chose, sans commettre de péché. Là, il y a le lien entre les tentations qui viennent à Jésus et sa faiblesse. Donc, ce qui est souligné par la lettre aux Hébreux, c'est que quand Jésus a été tenté, il a réellement souffert. Il était réellement faible. Pour Jésus donc, c'est un moment de souffrance et de faiblesse. Nous ne pouvons pas surestimer la bataille qui a eu lieu. Et je crois que nous voyons sa souffrance dans plusieurs détails. Je vous donne trois choses ici. D'abord, nous voyons sa souffrance dans le fait que l'action, selon toute apparence, il faut bien ajouter ceci, l'action selon toute apparence, à cause de l'action selon toute apparence contradictoire de Dieu. Il y avait une action, une manière d'agir qui semblait contradictoire. Et pour sentir ce changement brusque, Reculons jusqu'à Matthieu chapitre 3, verset 16, pour reprendre à Matthieu 3, verset 16, qui dit que Jésus eut été baptisé, sorti de l'eau, et voici les eaux, les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe venir sur lui. Et voici une voix, donc il a entendu cette voix qui fit entendre des cieux ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Ne voyez-vous pas un peu le contraste entre ces deux expériences qui suit l'une après l'autre? Marc 1, 12 dit « Aussitôt, donc après son baptême, l'Esprit poussa Jésus dans le désert où il passa 40 jours tenté par Satan. » Donc l'Esprit de Dieu, pensez à ceci, l'Esprit de Dieu qui descend à un moment comme une colombe et vient sur lui, quelle image de douceur, de tendresse, de paix. La colombe qui descend, et puis juste après le pousse dans le désert, dans les bras de l'ennemi. Pour être, selon Marc, avec les bêtes sauvages. Nous avons ce contraste entre le Jourdain avec ses eaux qui coulent doucement et le désert aride. Nous avons ce contraste entre une colombe qui descend sur lui et les bêtes sauvages qui l'entourent. Mais plus important que cela, nous avons le même esprit qui descend visiblement le réconforter et l'assurer de sa position de fils, qui le pousse pour se trouver face à face avec le pire des ennemis et pour combler la souffrance. La voix de son Père, qui s'est fait entendre de façon audible, restera pendant tout ce temps silencieuse. Et à la place, imaginez cela, à la place de la voix du Père qui dit « Tu es mon fils bien-aimé », il n'entend que la voix de Satan qui dit « Si ». Tu es le Fils de Dieu. Je ne serais pas surpris d'apprendre au ciel que la prière qu'il a priée dans le jardin de Gethsémané, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, que cette prière a été priée dans le désert aussi. Jésus a souffert à cause de l'action, selon toute apparence, contradictoire de Dieu. Qui est le Père qui, juste après avoir dit à son fils qu'il l'aime, le pousse dans le désert pour souffrir, pour souffrir la faim et le froid? Deuxièmement, je crois que c'était une vraie souffrance à cause des méthodes sournoises du tentateur. Surnois dans le sens qu'il dissimule ses sentiments, ses intentions véritables. C'est Satan le tentateur après tout. Comment Satan a-t-il tenté Jésus ici? Alors sachez que Satan n'a pas pris Jésus pour le lancer du haut du temple. Cela n'aurait servi à rien pour Satan. Satan n'a jamais forcé même la main d'Ève. Il n'a pas pris la pomme. Mis dans la bouche d'Ève. Il savait qu'une telle méthode n'aurait pas aidé sa cause. Plutôt, il incite Ève à prendre le fruit elle-même. Et vous savez que Satan ne peut pas vous donner la mort directement. Il n'a pas ce pouvoir. Il n'a pas le pouvoir sur vous, même sur votre corps. Dieu dit qu'il ne peut même pas nous voler un cheveu sans que Dieu le désire. Mais comme avec Ève, Satan nous pousse continuellement au péché qu'il sait entraînera notre mort. C'est le péché qui nous tue, pas Satan. Et donc Satan nous pousse au péché, pas directement à la mort. Et donc, nous n'avons pas besoin de craindre Satan qui nous donne un mal de tête, par exemple. Nous devons craindre les pièges de Satan qui nous incite à la colère. C'est le péché qui nous tue. Nous n'avons pas besoin de craindre que Satan va nous causer un accident sur la route. Nous devons craindre plutôt d'exercer un manque de confiance et de foi en Dieu quand nous sommes sur la route. Nous n'avons pas besoin de craindre que Satan va mettre quelqu'un dans notre vie pour gâcher tous nos plans. Il y a des gens qui pensent, ah oui, c'est Satan, il a mis cette personne, il a gâché ma vie. Satan n'a pas cette puissance de le faire. Nous devons craindre plutôt qu'il ne pousse à ne pas aimer cette personne, ou à ne pas le pardonner, ou à nourrir l'amertume ou la haine dans nos cœurs, des péchés qui induisent la mort. Trop souvent, nous attribuons à l'ennemi des pouvoirs là où il n'en a pas, tout en négligeant les domaines où il est activement à l'œuvre. Donc, si l'ennemi va vous attaquer, je vous assure qu'il ne va pas vous assommer physiquement. J'ai dit ça une autre fois, mais je le redis, vous n'allez pas venir au culte avec un œil gonflé et un gros bleu, et vous avez dit, vous avez vu ce que Satan m'a fait. Si l'ennemi nous attaque, c'est pour faire comme il a fait avec Adam et Ève et comme il essaye de faire avec Jésus, de nous pousser vers notre mort en nous poussant vers le péché. C'est le péché qui nous tuera. Et quelles sont les méthodes que le tentateur utilise de pousser Jésus donc vers le péché? Et notons ce qu'il fait dans chacune de ces tentations. D'abord, dans la première tentation, Satan fait appel à une puissance qui est la sienne, c'est-à-dire qui est à Jésus. Il fait appel à une puissance ou un pouvoir que Jésus a déjà, une puissance qui est la sienne. Regardez la première partie de ce chapitre, verset 1, que Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché de lui, dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Alors, s'il vient me dire ça, ce n'est pas une tentation. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Mais vous savez, rien n'aurait été plus facile pour Jésus. Jésus avait le pouvoir, et il le savait, de créer du pain. Il va plus tard, vous rappeler dans son ministère, multiplier le pain en abondance. À plusieurs reprises même. Il peut donc le faire. Et c'est en tant que fils de Dieu qu'il pourra le faire. C'est dans son rôle de fils qu'il peut faire ainsi. Il dira à la fin de son ministère, il parle à Pierre et il dit, « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges ?» Donc, rien n'est plus certain que le fait qu'il puisse le faire et que même son Père va accorder ses anges s'il le demande. Et donc, ce n'est pas pour rien que Satan lui dit, si tu es le fils de Dieu, ordonne ces pierres, que ces pierres deviennent des pains, parce qu'il savait, l'un comme l'autre, que ce n'est que dans cette position de fils de Dieu qu'il avait le pouvoir de faire ainsi. Et de plus, Dieu le Père venait de confirmer à haute voix qu'il était son fils bien-aimé. Mais Jésus n'a pas encore pu démontrer cela. Il n'a pas encore changé, il n'a pas encore fait de miracle. Il n'a même pas démontré à lui-même qu'il a des pouvoirs que nul autre en a, puisqu'il est le Fils de Dieu. Donc voici l'occasion de le démontrer. Voici l'occasion de le prouver, d'humilier Satan, de prouver à lui-même qu'il est effectivement le Fils de Dieu avec tous ses besoins. Et en plus, il y a un vrai besoin. Il est vraiment le Fils de Dieu. Pourquoi pas ? Et donc Satan tente de créer en Jésus et dans son esprit une fausse corrélation. Une corrélation, c'est un rapport entre deux choses. C'est comme à Ève, il a dit, si Dieu t'aimait, il n'aurait pas fait cela. Puisqu'il fait cela, c'est qu'il ne t'aime pas. C'est-à-dire un Dieu qui m'aime est un Dieu qui ne me prive pas d'un fruit. Mais à Jésus, il dit, un Dieu qui te déclare son fils, qui dit qu'il a mis toute son affection en toi, ne te priverait pas d'utiliser ta position de fils pour te procurer du pain quand tu en as besoin. Non, tu es véritablement son fils. Tu peux, tu dois te procurer du pain. C'est-à-dire un bon Dieu qui m'aime égale un Dieu qui ne me prive pas donc du pain quand j'en ai besoin. Voyons-nous les fausses corrélations que crée Satan dans nos esprits? Les gens agissent toujours ainsi. Un Dieu d'amour ne ferait jamais ceci. Un bon Dieu ne me forcerait jamais à abandonner cela. Si je suis affranchi en Christ, j'ai forcément le droit d'utiliser ma position, ma liberté. Ainsi, Dieu m'a donné la liberté. Voici les pièges du diable. Si Jésus aurait choisi cette occasion pour prouver son lien filial au Père Céleste, il aurait tombé dans le piège. Ce n'était pas l'heure pour une démonstration de sa puissance, mais plutôt de sa dépendance à une vie que la puissance terrestre ne peut pas donner. C'est pour cela qu'il dit, verset 4, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Satan est en train de dire, ben, tu n'as rien besoin de plus que le pain, voici ton seul besoin. Jésus a faim, c'est un vrai besoin, mais ce n'est pas son seul besoin. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il y a un autre besoin que j'ai, qui vient de la parole de Dieu. Je ne peux pas remplir ce besoin physique en me détachant de cette vie céleste. Et vous savez, chaque jour qu'on se lève, qu'on travaille uniquement pour le pain physique, nous démontrons que nous croyons que c'est notre seul besoin. Ou en tout cas notre plus grand besoin. Mais Dieu, dans sa grâce, il nous envoie l'affliction, n'est-ce pas? Pour nous apprendre que ces choses ne peuvent pas nous satisfaire. Et Jésus lui-même, quand il souffrait d'une agonie physique extrême, on ne peut pas imaginer 40 jours de jeûne dans le désert, il a choisi de ne pas utiliser sa force pour soulager sa souffrance si cela pouvait compromettre sa vie spirituelle qui ne venait pas du pain physique, mais de sa relation intime avec le Père. Donc nous voyons les méthodes sournoises du tentateur. Il faisait appel à une puissance qui est la sienne, mais Satan, deuxièmement, fait appel à une promesse qui est certaine aussi. Nous voyons comment il est trompeur. Regardez le verset 5, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, et il cite une promesse de Dieu, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » C'est une promesse certaine. Alors question, si Jésus avait sauté, est-ce que les anges l'auraient attrapé? Oui, c'est une promesse. C'est une promesse certaine. Dans ce sens, il a bien compris. Je suis sûr que les anges auraient fait exactement ce que le Père avait promis. Il y a la promesse qui est certaine, mais il y a aussi une façon d'utiliser la promesse. Par exemple, Dieu promet qu'il va pourvoir à tous mes besoins. Mais est-ce que je dois me servir de cette promesse pour ne plus jamais travailler? Si je refuse de travailler, mais je dis à Dieu, ben, t'as promis. La Bible dit que je tente Dieu. Je suis en train de tenter Dieu, de forcer le bras de Dieu. Et il dit à plusieurs reprises, c'est exactement ce qu'ont fait les enfants d'Israël dans le désert. À chaque fois, ils ont tenté Dieu. Est-ce que Dieu a pourvu à tous leurs besoins? Oui. Vous lisez les 40 ans de désert, il a pourvu. Même s'ils l'ont tenté, il a quand même fait. Mais ils ont souffert aussi. Voyons les méthodes du tentateur en faisant appel à une puissance qui est la sienne, on peut le faire, pourquoi pas? Une promesse qui est certaine. Et puis troisièmement, il fait appel à une fin aussi qui est certaine. Une fin qui est certaine. Verset 8, le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu prosternes et m'adores. La destinée de Jésus était certaine. Le psaume 110, parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Dans le psaume 2, qui est un psaume qui parle aussi du Messie, il dit, l'Éternel m'a dit, tu es mon, vous savez le mot qui suit? Fils. Tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer et tu les briseras comme le vase d'un potier. Rien n'est plus sûr que Jésus était le roi des rois. Nous avons déjà vu sa généalogie qui descend des rois. Nous avons vu les mages venir l'adorer. Marie a certainement raconté souvent cette histoire à son fils Jésus. Jésus donc connaissait aussi les promesses du psaume 2 qui a été faite à mon fils. Et il venait d'entendre la voix de Dieu qui dit, « Toi, tu es mon fils. Toi, tu es mon fils. » À qui j'ai fait cette promesse, à qui est promis de recevoir les extrémités de la terre pour possession, qu'il allait régner en tant que roi sur tout le globe. Et Satan, quel imposteur, hein? Satan prétend donner ce que le Père seul peut conférer. Satan dit, je te donnerai toutes ces choses, si tu prosternes et m'adores. Satan est le même imposteur de nos jours. Il prétend toujours pouvoir vous donner ce que Dieu seul est capable de vous donner. La joie, la paix, l'amour, la vie. C'est Satan qui vient et je vous donnerai ces choses. Toutes ces choses ne sont pas la propriété de Satan, mais de Dieu. Dieu seul peut nous donner ses bienfaits. Mais Satan vous les offre à condition que vous refusez à Dieu l'adoration qui lui est due. Et Jésus lui dit donc, verset 10, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu te serviras de lui seul. Tu le serviras lui seul. » Alors le diable laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Nous voyons la souffrance de Jésus à cause de cette action, selon toute apparence contradictoire de Dieu, à cause de ces méthodes du tentateur, où il fait appel à une puissance qui est la sienne, une promesse qui est certaine et une fin qui est certaine. Et il souffre aussi à cause de la façon humaine dont il doit combattre, la façon humaine dont Jésus a dû combattre. Sachez que le Christ a dû résister au péché en tant qu'homme. En tant qu'homme. Il faut apprécier ce fait parce que on pourrait dire, bon, c'est facile pour le Christ de résister au diable parce qu'il pouvait se brancher à son courant divin, qu'il était en tant que Dieu, et puis, voilà, retrancher le diable. Mais ce n'est pas le cas. Il a dû se démontrer résister au diable en tant qu'homme. C'est-à-dire avec rien de plus à sa disposition que ce qui est disponible à vous et à moi. Il n'a pas pu sortir sa puissance divine comme un Superman pour détruire le diable. Il n'a employé rien davantage que les ressources qui sont à notre disposition. Et quelles sont-elles? Elles sont visibles dans le texte. La première chose, c'est l'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. Il était en soumission à l'Esprit. On a déjà lu qu'il est allé en obéissance à l'Esprit. Il vivait en obéissance à l'Esprit tous ces 40 jours. Et nous savons que si nous nous soumettons à l'Esprit, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Si par l'Esprit nous mettons à mort la chair, eh bien nous vivrons. Il y avait l'Esprit, il y avait quoi d'autre? Vous le savez, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et ce qui est frappant par rapport à la parole de Dieu est ceci. Est-ce que vous avez noté, est-ce que ça vous a frappé avant? Au Jourdain, il a entendu une voix venant du ciel. C'est merveilleux. Mais quand il est face au tentateur, quand il nous semble, le plus grand besoin d'une voix céleste, le ciel est silencieux. Et il n'a que sa Bible. Il n'a que ses souvenirs de la Bible. Il n'a que ce qu'il a auparavant mémorisé de la Bible. Il a dû résister au péché dans sa totalité en tant qu'homme. Il a dû faire confiance à la parole, mais simplement la parole écrite et mémorisée. Pas une parole qui lui tombe du ciel, non. Une parole qui était cachée dans son cœur afin qu'il ne pèche pas contre Dieu. Hébreux 12, 3 et 4 dit « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché, mais Jésus a résisté. Il a résisté le diable face à face dans le désert. » Donc nous voyons l'esprit qui le pousse, Satan qui le tente, et nous terminons avec les anges qui le servent. Regardez le verset 11. Alors le diable le laissa. Et après qu'il est parti, voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Alors pensez avec moi au premier Adam et à sa tentation. Vous savez, après sa tentation, les anges sont venus aussi. Rappelez. Genèse 3, 24 nous dit que c'est ainsi qu'il chassa Adam et le mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins. C'est des anges. Et pourquoi sont-ils venus? Qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie, pour empêcher Adam de jamais revenir. Les anges sont là pour bloquer la route. Quelle tragédie! Mais notez comment les anges de Dieu répondent au dernier Adam après sa tentation. Les anges le servent. Rien que cela nous dit que c'est une annonce de victoire, mes amis. Une annonce de victoire. Notez, et ça je trouve très beau, notez la promesse que Satan a citée au verset 6, au milieu du verset 6. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Quelle belle promesse! Quelle belle promesse! Il donnera des ordres à ses anges à tes sujets. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc au verset 6, Satan lui a promis que les anges viendraient à son secours. Et Jésus a refusé de tenter son Père de cette façon. Cependant ici, le Père fait exactement cela. Il envoie ses anges pour le servir. Et il dit au verset 8 que Satan l'avait amené à cette très haute montagne. On ne sait pas où sur le globe, mais apparemment très loin de Galilée. Qui l'a raccompagné? Qui l'a raccompagné? Il dit que au verset 11 que le diable a laissé sur cette haute montagne, qui, on ne sait pas où, qui l'a raccompagné jusqu'en Galilée? C'est les anges qui l'ont raccompagné. Les anges l'ont porté dans leurs mains et l'ont empêché qu'une pierre ne heurte contre son pied. Jésus a reçu l'aide des anges. Mais plutôt que de l'attraper, quand il saute de lui-même du haut du temple, ils le servent en le portant depuis le haut de cette montagne. Jésus n'a pas tenté Dieu son Père, il a attendu. Mais il a reçu beaucoup plus en retour. C'est cela avec toutes les tentations. Jésus n'a pas transformé les pierres en pain lui seul, mais plus tard il aura l'occasion de le faire, n'est-ce pas ? Plusieurs fois. Jésus n'a pas accepté les royaumes du monde de la main du tentateur, mais le Père lui-même l'a élevé au plus haut degré et a fait qu'un jour tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Alors que pouvons-nous apprendre du Sauveur? Eh bien, c'est un sauveur victorieux. Un sauveur victorieux. C'est aussi un sauveur prouvé. Un sauveur prouvé. Il y a des bateaux qu'on dise insubmersibles, mais s'ils ne sont jamais passés à l'eau, qui va avoir confiance? Il a été prouvé. Et ça nous donne beaucoup d'assurance dans notre relation avec lui. C'est un sauveur aussi exemplaire. L'Écriture dit que Christ nous laisse un exemple. Et ça aussi, c'est très beau. C'est un sauveur compatissant. Dieu, il connaît nos pensées, il connaît nos cœurs. Mais Jésus a été un homme. Il est compatissant de ce point de vue même humain. Il a souffert nos souffrances. Ce n'est pas qu'il les connaît en tant que Dieu qui sait tout. Il les connaît par expérience humaine. C'est tout autre chose. Et c'est ça que les tentations de Jésus nous donnent. Il nous donne maintenant un sauveur qui connaît par expérience humaine nos tentations et qui peut donc compatir. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en tant qu'humain, c'est-à-dire en toute chose, sans commettre de péché. Nous avons donc un ami compatissant et charitable. Nous avons un sauveur capable et compétent. Nous avons le roi victorieux face à l'ennemi. Alors qui a réussi cette semaine à résister au péché? Personne, je suis sûr. Qui a pu résister ce matin à résister à toutes les formes de péché? Personne. Mais notre Sauveur, il a réussi. Et donc, si vous venez à Christ, vous avez un salut certain. Pourquoi? Parce que ce salut ne dépend pas de vous, mais de lui. Et il est victorieux. Prions le Seigneur. Ô notre Père, nous sommes humiliés, et vraiment nos cœurs remplis d'adoration, en pensant au fait que tu as envoyé ton Fils bien-aimé dans ce désert pour être tenté par ton ennemi. Nous ne pouvons pas imaginer même ce qui était dans ton cœur pendant, en tant que Père, pendant ces souffrances qu'a connues ton Fils. Mais nous savons que c'est à sa gloire maintenant. Et c'est pour notre bien. Et pour cela, nous voulons te glorifier. Père, Fils et Saint-Esprit, qui ont tous eu part à cette démonstration de force, de justice et d'amour, que tu es victorieux sur l'ennemi, que nous n'avons pas besoin donc de craindre, parce que si nous sommes en Christ, nous sommes victorieux, parce qu'il est maintenant en nous, et celui qui est en nous est plus grand, il a prouvé, que celui qui est dans le monde. Donne-nous cette confiance et cette foi de le croire. Amen.